Bonjour à chacune et à chacun. Donc, cette année scolaire, nous avons pensé regarder le thème adoration, louange, sacrifice. Je ne sais pas si vous avez noté que lors de l'année scolaire précédente, nous avions eu un thème que nous avions repris un certain nombre de fois. Je ne sais pas si ça a percuté tout le monde, mais c'était le thème de l'amour. Alors, ça ne veut pas dire que tous les messages de 2023-2024 vont tourner sur l'amour, et ça ne veut pas dire que tous les messages de 2024-2025 vont tourner sur ces thèmes de l'adoration, de la louange, des sacrifices. Néanmoins, il nous a semblé intéressant à plusieurs que, peut-être, au cours de l'année, il y ait un certain nombre de messages qui soient centrés sur ce sujet-là. Et alors, pour introduire ce thème un peu transversal qui va nous occuper au cours de cette année scolaire 2024-2025, il m'a semblé bon de commencer par cette question: qu'apprendre des sacrifices du Lévitique. Et donc, pourquoi parler au début de ce sujet des sacrifices? Parce que c'est peut-être d'abord dans le déroulement de la révélation de Dieu quelque chose qui arrive assez tôt. Et puis parce que c'est un point que nous allons voir qui est un petit peu au cœur du plan de Dieu. Parce que si nous prenons un peu de recul, nous pourrions nous poser la question: quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour l'humanité, pour l'être humain? Alors, il y a des réponses qui ont été données. Une première réponse est donnée par exemple par les chants. « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom ». Et puis, il y a des personnes qui ont réfléchi dans le passé. Et au XVIIe siècle, les chrétiens anglicans ont édité le catéchisme de Westminster. Catéchisme de Westminster qui reste un élément très important dans l'histoire du christianisme comme un document fondamental. Et ce catéchisme de Westminster, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le feuilleter, mais c'est des questions et des réponses. Et la question numéro 1 par laquelle s'ouvre ce catéchisme de Westminster, c'est: quelle est la fin principale et la plus élevée de l'homme? Et la réponse: la fin principale et la plus élevée de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver pleinement sa part et sa joie en lui à jamais. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est un chant, et puis c'est une construction humaine, ce catéchisme de Westminster. Alors, est-ce que tu aurais un texte biblique peut-être pour appuyer un peu tout ça de façon un peu plus sérieuse? Alors nous pouvons prendre ce qui est peut-être un des sommets de la révélation biblique, la plus longue phrase et la plus belle phrase qui ait jamais été écrite, à savoir Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14, et que nous dit Paul dans cette phrase. Ici, les citations que j'ai empruntées sont de la seconde 21, donc c'est scindé, mais c'est qu'une seule grande phrase. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Quelques versets après, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. » Nous avons parlé tout à l'heure du plan de Dieu. Eh bien, c'est quoi ce plan de Dieu? C'est pour servir à célébrer sa gloire. Et la phrase se termine au verset 14, « Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis. » Dieu s'est acquis ses hommes, ses femmes. Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Donc, quel est le plan de Dieu pour l'homme? Pourquoi nous a-t-il créé? Eh bien, pour que nous soyons à la louange de la gloire de sa grâce, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa grâce. Et alors, pour célébrer la gloire et la grâce de Dieu, comment faire? C'est quoi célébrer la grâce et la gloire de Dieu? Ça se manifeste comment? Eh bien, nous avons les réponses qui nous sont données dans deux autres textes du Nouveau Testament que nous trouvons dans la première épître de Pierre, où Pierre dit: « Vous-même, en tant que pierre vivante, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et quelques pages avant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Texte que tu nous as cité, Olivier, au début de ces moments, nous ne nous étions pas concertés. Et donc, on voit que ce que nous sommes appelés à offrir pour célébrer Dieu, ce qui est donc le plan de Dieu pour nous, ce sont des sacrifices, mais des sacrifices spirituels. Et donc, cela va nous encourager à aller regarder dans le contexte de l'Ancien Testament pour comprendre un petit peu ce que ces auteurs imbibés qu'ils étaient de l'Ancien Testament voulaient nous faire comprendre en utilisant ces mots de sacrifice, de louange que nous avons à rendre à Dieu. Néanmoins, il y a quand même un point très important, et nous y reviendrons sans doute ultérieurement une autre fois, mais c'est que si nous avons à offrir des sacrifices spirituels, néanmoins, le sacrifice ultime a d'ores et déjà été sacrifié et accompli. Et c'est ce que nous venons de rappeler en rappelant cette nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Tous les sacrifices matériels de l'Ancien Testament, nous allons en dire un mot dans un instant, convergent en fait vers l'unique sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous avons ces affirmations massives d'Hébreux chapitre 10, versets 8 à 14, où il a d'abord dit, le « il » étant le « Fils », le Christ qui s'incarne, « Tu n'as pas voulu et tu n'as pas accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et puis, un petit peu plus loin, tout prêtre se tient debout chaque jour pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Et donc, si nous allons parler de ces sacrifices, eh bien, c'est parce que tous ces sacrifices, en fait, convergent vers Jésus-Christ et la croix de Jésus-Christ. On va parler d'animaux qui vont être sacrifiés, on va parler de grains, et puis on va parler de sacrifices qui sont offerts sur l'autel, et puis de prêtres aussi. Mais Jésus-Christ, il est à la fois tous ces sacrifices. Il est à la fois le bœuf, l'agneau, la tourterelle, le pain, l'autel des holocaustes, l'autel de l'encens et le souverain prêtre. Il est tout cela à la fois dans sa seule personne. Alors vous allez me dire... tu viens de lire de façon très claire, il abolit le premier culte pour établir le second. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a à faire de revenir au premier culte? Pourquoi tu vas nous bassiner avec le Lévitique, puisque c'est fini, c'est écrit noir sur blanc de façon très claire. Oui, mais on va sans doute pouvoir tirer de ce que nous disait déjà l'Ancien Testament des enseignements. Comme le dit aussi l'Épître aux Hébreux, c'était des ombres. Mais vous savez, parfois, quand on est aveuglé par la lumière, eh bien, avoir une ombre, ça permet quand même de discerner des choses. Et quelque part, nous sommes aveuglés par la lumière de la croix de Jésus-Christ et la splendeur de sa personne. Et donc, les ombres que Dieu nous a données dans l'Ancien Testament vont nous permettre de dessiner quelques contours et donc peut-être de tirer quelques enseignements de ces textes qui sont jugés à juste titre, parfois comme assez arides, voire difficiles. Alors, néanmoins, avant le Lévitique, nous trouvons déjà des sacrifices. Alors ça, c'est un peu surprenant, parce que on voit dans le livre de la Genèse, le premier, c'est Abel qui offre un sacrifice de ses premiers-nés. Ça sortait d'où, cette idée d'Abel? Et puis ensuite, on voit Noé, une fois que le déluge est fini, que fait-il? Il avait eu la prudence de prendre 7 animaux parmi les animaux saints, qui lui avaient dit quels étaient les animaux saints. Et puis, du coup, ça lui permet d'avoir quelques sacrifices sous la main pour une fois que le sec est réapparu. Et puis, Abraham aussi offre des sacrifices, etc. Et donc, ce que, me semble-t-il, nous voyons au travers de ces de ces éléments, et je ne vais pas développer davantage que cela les sacrifices avant Lévitique 1, mais c'est qu'il y avait une culture de l'époque, et d'ailleurs les recherches archéologiques qui ont été faites dans le Moyen-Orient antique le montrent, eh bien une culture de l'époque où il y avait cette offrande de sacrifice, et donc Dieu prend ce moyen en lien avec la culture de son époque. Une culture qui aujourd'hui nous est très éloignée et qui nous répugne peut-être un peu. Tout ce sang, c'est pas tellement quelque chose auquel nous sommes familiers. Nous, la viande, nous l'achetons en barquette cellophanée, eh bien, on n'est pas obligé de faire la boucherie nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu répugnant. Mais bon, en tout cas, à l'époque, c'était quelque chose qui était très largement répandu du temps, au moins, d'Abraham et de ses descendants. Mais ce qui est très important, et c'est pour cela que j'ai mis cet extrait du tableau du Caravage, magnifique, sur la ligature d'Isaac, c'est que Dieu va marquer un interdit très fort par ce qui se passe en Genèse 22, pas de sacrifice humain, absolument pas. Et alors, une fois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, est arrivé au pied du mont Sinaï, Dieu va donner des règles pour les sacrifices qui doivent lui être offerts. Et alors, ces sacrifices sont très multiples. Vous avez peut-être noté dans l'énumération que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux en citant le Christ, à travers du psaume 40, bien entendu, qu'il prend comme un psaume messianique, eh bien, qu'il y a différentes catégories de sacrifices. Et on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a les sacrifices volontaires, facultatifs, que sont l'holocauste, l'offrande de gâteau et le sacrifice de paix, et des sacrifices obligatoires, que sont le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour l'infidélité. Si tu avais péché, tu n'avais pas le choix. Il fallait venir avec son mouton parce que tu avais péché contre l'Éternel ou contre ton prochain. Par contre, l'holocauste, personne ne t'obligeait de donner un holocauste. Personne. C'était absolument volontaire et facultatif. Et alors, le livre du Lévitique comprend un rituel et ensuite une loi, et je ne vais pas rentrer beaucoup dans ces détails. Nous allons nous concentrer, et j'en dirai un mot pourquoi, sur les sacrifices volontaires, les sacrifices facultatifs. Et en plus, ces sacrifices multiples, il fallait bien voir qu'ils étaient aussi variés dans leur agencement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des sacrifices communautaires, par exemple, on offrait un holocauste le matin et puis un holocauste le soir, un agneau d'ailleurs. Et puis, il y avait des sacrifices qui étaient personnels, donc qui étaient des sacrifices soit obligatoires, j'ai péché, soit des sacrifices volontaires, soit des sacrifices lors d'un vœu que j'avais fait, et puis il y avait des sacrifices spécifiques pour la consécration des sacrificateurs. Et là, nous allons nous concentrer sur les sacrifices personnels. Et par rapport à ces sacrifices, comme vous le voyez, on l'a vu ici, le sacrifice de l'Holocauste, l'offrande de gâteau et le sacrifice de paix se trouvent dans les trois premiers chapitres du Lévitique, et ce sont les trois sacrifices volontaires. Et alors, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, vous avez le plan des sept premiers chapitres. Alors, le livre du Lévitique, il est fantastique parce qu'il comprend 37 parties, 18 plus 1 plus 18. Je ne vais pas rentrer dans le détail beaucoup, mais là, vous en avez 9. Et il se trouve que la première partie, qui est marquée chaque fois par l'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit « Parle au fils d'Israël » en disant, eh bien, que les sacrifices volontaires et facultatifs, les trois, donc holocauste, offrande du gâteau et sacrifice de paix, eh bien, ils sont regroupés sous une seule fois, l'Éternel parla à Moïse disant « Parle au fils d'Israël et dis-leur ». C'est comme si c'était un seul grand paragraphe, vous voyez. Alors nous, on les scinde souvent en trois chapitres, mais en fait, non. C'est si on prend le texte hébreu, c'est un paragraphe, un chapitre. Donc ça montre que ces trois sacrifices vont ensemble. Voilà. Et c'est pour cela que nous allons les regarder ensemble. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que je vais vous lire tout ce qui est tous ces trois longs chapitres? Non. D'abord parce que je craindrais que ça endorme un peu certains. Et puis que mon but est là beaucoup plus modeste. Il est d'essayer, à partir de ces chapitres-là, de mettre en exergue quelques points pour voir comment nous pouvons transposer des éléments qui nous sont donnés dans ces chapitres-là et essayer de voir derrière l'ombre qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre louange personnelle. Alors, si nous ouvrons quand même la Bible en Lévitique, chapitre 1, verset 1, que lisons-nous ? « L'Éternel appela Moïse de l'attente de la rencontre, il lui dit « Transmets ces instructions aux Israélites ». Le livre de l'Exode se termine au chapitre 40 par un événement extraordinaire. Donc, le livre de l'Exode, le peuple est en Égypte, il y a toutes les plaies d'Égypte, le pharaon en a marre, il vire les Égyptiens, qui passent la mer Rouge, le pharaon est englouti, puis ensuite ils traversent le désert, ils arrivent au pied du mont Sinaï, là Dieu apparaît, donne les livres de la loi à Moïse, et ensuite il y a un chapitre qui est parfois un petit peu méconnu, qui est le chapitre 24. Au chapitre 24, eh bien, il y a Moïse et Aaron, et puis des anciens d'Israël qui montent et qui établissent l'alliance avec Dieu. Et vous aurez remarqué qu'il est déjà question de sacrifice au chapitre 24 de l'Exode, bien avant que les sacrifices soient établis de façon formelle par les instructions que Dieu va donner à Moïse quelques jours ou quelques semaines après. Puisque, entre-temps, il y aura le tabernacle qui va être construit. Donc, ça a pris quand même un certain temps. Tabernacle qui va être construit, les instructions nous sont données dans les chapitres 25 à 31, la construction commence au chapitre 32 jusqu'au chapitre 40, et au chapitre 40, que se passait-il ? Eh bien, la gloire de l'Éternel descend sur ce tabernacle. Et donc, pourquoi fais-je le lien avec tout ce récit de l'Exode ? C'est que déjà, on sait que les cinq livres de Moïse forment le Pentateuch, et c'est un ensemble, donc il faut aussi les lire dans la continuité de ces cinq livres. Mais c'est aussi pour indiquer que l'Éternel appela à Moïse de l'attente de la rencontre. Donc il y a déjà eu la rencontre. Il y a déjà eu cette rencontre entre Dieu et son peuple. Donc là, nous nous trouvons dans une relation qui est déjà établie. Et c'est d'ailleurs même le cas aussi sur un aspect plus moral et plus d'instruction éthique, comme nous le trouvons au chapitre 20 du livre de l'Exode. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». La relation est déjà établie, le peuple est déjà libéré. Et donc, ce qui est très important de se dire, c'est que ce n'est pas nous qui prenons l'initiative de dire un bon moment, eh bien, je serai content de louer Dieu. Non, c'est toujours Dieu qui prend d'abord l'initiative. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui vient vers nous. Et Dieu a déjà rencontré son peuple. Il l'a déjà rencontré en le sortant du pays d'Égypte, en lui faisant passer la mer Rouge. Il l'a déjà rencontré en lui donnant cette loi au Sinaï, et avant de donner la loi, il lui a dit « Vous êtes un peuple saint ». Peut-être lisons ce verset parce qu'il est très important, Exode chapitre 19. C'est un verset très touchant. Exode 19, verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Je vous ai amené à moi. » Derrière cette simple phrase, je vois tout le propos de Dieu qui est d'amener sa créature vers lui. Et ça, c'est lui qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre dans tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est exactement ce que Pierre, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, reprend pour dire que maintenant, ce sont les chrétiens qui forme ce peuple. Ce n'est plus un peuple ethnique comme l'était Israël des 12 tribus, mais c'est l'Israël de Dieu qui est composé de l'ensemble de tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, et Dieu a déjà pris cette initiative de venir nous rejoindre. Et donc, de façon très concrète pour nous, nous louons Dieu, non pas pour être acceptés par Dieu ou pour être sauvés, mais nous louons un Dieu qui nous a déjà mis en relation avec lui. Il nous a déjà mis en relation avec lui. Et un deuxième point, c'est il lui dit, donc il y a déjà eu cette rencontre. Donc si je loue Dieu, ce n'est pas parce que j'aimerais que Dieu, il m'accepte devant lui. Non. Je suis saint et irréprochable devant lui, en amour. C'est Éphésiens 1. Pour ça que j'ai commencé par Éphésiens 1. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et alors, je peux bénir. Parce que je suis saint et irréprochable devant Dieu en amour. Je suis déjà en relation avec lui. Je suis déjà dans l'attente de la rencontre. Et vous remarquerez la suite, il lui dit « Transmets ses instructions aux Israélites ». Et oui, transmets ses instructions aux Israélites, parce que nous avons besoin aussi de louer un Dieu donc, qui nous a déjà mis en relation avec lui, mais nous avons aussi à louer Dieu comme lui le veut, pour lui faire plaisir à lui. Quand nous venons ici, quel est notre premier objectif? C'est se faire du bien, passer un moment sympa, être cool, ou faire plaisir à Dieu. Et si on fait plaisir à Dieu, ben c'est quand même bien d'écouter ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Et alors, ce sera peut-être le thème d'une autre fois, mais les prophètes sont très virulents sur le fait qu'on peut rendre une adoration à Dieu qui ne lui va pas du tout. Et les critiques sont nombreuses. Donc, notre souhait, c'est d'abord de lui faire plaisir à lui. Et donc, prétendre, je cite un auteur que j'ai trouvé intéressant, Gain, « Prétendre fixer nous-mêmes les règles de l'adoration, c'est nier la seigneurie de celui que nous prétendons adorer. » Donc, nous adorons notre Dieu parce qu'il a déjà pris l'initiative, parce qu'il a déjà rencontré son peuple, parce qu'il a déjà eu, il y a déjà eu cette alliance. Et alors, si je reviens à Exode 24, juste un mot sur Exode 24, vous remarquerez que dans Exode 24, il est question de nouveau d'holocauste, de sacrifice de paix, etc., qu'on offre avant qu'il soit même institué. C'est un petit peu, ça nous surprend un peu, mais c'est comme ça. Et parce que c'est le chapitre qui établit cette alliance. Alliance qui devra être d'ailleurs réitérée plus après l'histoire du veau d'or. Mais bon, c'est quand même cette alliance qui est établie. Et cette alliance est établie, il n'y a pas de sacrifice pour le péché. C'est bizarre. Alors que pourtant, c'était le point clé. Ben oui, parce que ça, c'est Dieu qui s'en est occupé tout seul. Parce que le sacrifice pour le péché, nous étions incapables de le donner. Nous étions incapables, fondamentalement, de résoudre notre problème de péché. Et Dieu s'est fait péché pour nous en Christ, pour justement rétablir cette relation. Alors après, il y aurait d'autres enseignements de pourquoi il était demandé aux Israélites d'offrir des sacrifices pour le péché, mais je ne touche pas ce sujet aujourd'hui. Donc premier point, une relation déjà établie. Deuxième point, un apport personnel. Alors il faut avancer un peu dans le chapitre, verset 2. « Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. » Ça, c'est aussi intéressant parce que Dieu interdit qu'on lui sacrifie le produit de la chasse. C'est un peu étonnant ça. Pas d'animal sauvage, mais un animal qui faisait partie des biens personnels. Donc une offrande de petit ou de gros menu bétail ou de gros bétail, ben, c'était un peuple d'éleveurs. Hein. Donc ils avaient vu le veau sortir et puis il avait grandi un petit peu, il était devenu un gros bœuf et puis ils décidaient de l'offrir à Dieu. De l'offrir à Dieu comme ça, gratuitement. Et donc, il y avait eu tout un travail. Hein. Et puis, pareil aussi pour ceux qui offraient une offrande de grains, qui n'étaient peut-être pas éleveurs, mais plus cultivateurs. Franchement, c'est du boulot hein, de semer, de désherber le champ et de faire en sorte qu'il y ait une bonne récolte de grains de blé. Donc tout ça, c'était beaucoup de travail. Et donc, l'enseignement que j'en tire, c'est que nous avons à louer Dieu personnellement en fonction de ce que j'ai appris et de ce que je connais de lui. Il y a toute cette maturation dont nous parle le temps qui est nécessaire pour l'élevage, le temps qui est nécessaire pour la culture, et qui montre que c'est ce que nous avons maturé intérieurement que nous avons à offrir. Bien entendu, vous voyez, je transpose les sacrifices matériels sur un plan spirituel. C'est bien ce que 1 Pierre 2 nous invitait à faire, puisqu'il reprend des termes de l'Exode et du Lévitique en disant que c'est spirituel. Donc j'essaye de tirer chaque fois une application spirituelle de choses qui nous étaient données là sur l'angle matériel. Et il me semble qu'on peut en tirer de ce verset-là le fait que je dois louer en fonction de ce que j'ai personnellement maturé de Dieu intérieurement pendant parfois longtemps. Alors quand on continue, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur, il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Cela pourrait paraître un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit, puisque là, on voit, il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur, alors que j'ai indiqué qu'ils étaient déjà dans la faveur de Dieu. C'est vrai que Dieu s'était montré favorable au peuple, puisqu'il l'avait amené jusqu'à lui, mais néanmoins, il y avait ce souvenir qui devait rester. Et l'Holocauste c'est le sacrifice qui était offert entièrement pour Dieu, mais cette offrande n'était pas indépendante quand même de la situation du peuple. Éphésiens chapitre 5, verset 2 nous dit, c'est sans doute un des textes qui permet de lier assez directement le sacrifice de Jésus-Christ à ces sacrifices de l'Ancien Testament, « Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrant des sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur. » Il s'est offert donc entièrement pour Dieu, mais pour nous. Ou autrement dit, s'il n'y avait pas eu le problème du péché de l'homme, ben Dieu n'aurait pas sacrifié son Fils. Ça aurait été un non-sens. Donc on voit que même dans la reconnaissance que nous avons à apporter à Dieu, il ne peut pas ne pas y avoir un élément qui me rappelle que si je suis accepté devant Dieu, c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que je me suis approprié. Et le geste que faisait l'Israélite en posant les mains sur le mouton ou sur le bœuf, ou en prenant la tourterelle dans ses mains, ou en apportant le grain, comme on le voit après, c'était un geste qui permettait cette identification entre celui qui offrait et la victime qui allait être offerte. Et donc, si je me présente devant Dieu, si je peux le louer, c'est pas parce que je le vaux bien, c'est pas parce que je suis quelqu'un de fondamentalement de bien, mais c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a offert le sacrifice d'expiation dont j'avais besoin. Et ça doit être constamment en arrière-plan dans ce que nous avons quand nous venons louer Dieu. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos prétentions, non par nos mérites, etc. Qu'il est beau ce cantique 175 de reflet quand nous le chantons au début du culte. Nous arrivons au point 4, il y en a 7, rassurez-vous, mais c'est le central et c'est peut-être le plus important, c'est celui que j'aimerais vous laisser sur le cœur. C'est une égale acceptation par Dieu. Et dans ce chapitre 1 du livre du Lévitique, nous voyons qu'il y a trois paragraphes. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Et ça se termine, c'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, d'agneaux ou de chevreaux, il offrira un mâle sans défaut. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé par feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles et des jeunes pigeons. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. C'est le même refrain. Dieu apprécie toutes les offrandes. Dieu apprécie toutes les offrandes. Alors on peut dire, ben voilà, il y avait des Israélites qui étaient plus ou moins riches, ou peut-être dont le cœur était plus ou moins généreux. Hein, qui pourrait dire, attends, mon taureau, je me le garde. Par contre, je peux offrir un agneau. Ben oui, mais ça allait. Et puis peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était pauvre, il avait juste une petite tourterelle. C'est des oiseaux domestiques, hein, encore une fois. Ils offraient ça à Dieu. Et donc ça nous montre à quel point nous pouvons louer Dieu sous différentes formes et sous différentes mesures. Il n'y a pas l'adoration offerte qui parle au Père du Fils par la puissance du Saint-Esprit, qui serait le culte selon la parole et la seule façon acceptable de présenter une louange à Dieu. Non, il y a des façons diverses. Là, on pouvait offrir divers sacrifices, et chaque fois, vous aurez remarqué, il y a la même conclusion, s'appeler à Dieu. Parce qu'il y en a qui auraient pu dire, attendez, le sacrifice, c'est un agneau, et puis il n'y a que ça. Non, on peut offrir aussi des choses différentes. Et puis après, on va voir qu'il y a aussi l'offrande de grain, qui là aussi, le grain, ça peut être du grain, ça peut être un truc cuit à la poêle, ça peut être un truc cuit au four, ça peut être, voilà, des choses variées. Là aussi, pâtisserie, Dieu a accepté toutes les pâtisseries possibles, si je puis dire. Voilà. Donc, vous voyez, et ça nous montre qu'il faut nous abstraire de l'idée qu'il y aurait une façon univoque qui plairait à Dieu dans notre adoration. Ce qui plaît à Dieu d'abord dans l'adoration, c'est la foi de l'adorateur. C'est la foi de l'adorateur. Et pour cela, je vous invite à lire un texte en Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux 11, verset 4, qui nous ramène au premier sacrifice dont il est question offert par l'homme dans la parole, par la foi Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice de Caïn, et il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui étant mort, il parle encore. Or, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc ce qui plaît à Dieu fondamentalement, c'est la foi de celui qui offre, qui croit que Dieu est le rémunérateur de ce qui le recherche. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et alors, le plus important, il nous échappe, je pense, aujourd'hui, mais si on avait fait lire Lévitique 1, disons, à un Acadien du 15e siècle avant Jésus-Christ, ou à un Égyptien, ou à un Sumérien, ou que sais-je, ils auraient été sidérés, ou même à un Grec du 4e siècle. Ils auraient été sidérés. Pourquoi ? Parce que ça se termine comme ça, c'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et puis, parce qu'à l'époque, quand on offrait un sacrifice à un dieu, c'était pour en avoir quelque chose en retour. J'allais faire un voyage sur la mer, où il faudrait peut-être offrir un petit quelque chose à Poséidon, au cas où il se fâche. Et puis, j'avais un discours à prononcer. Ah, Hermès, Mercure, s'il te plaît, viens à mon secours. Et donc, j'offrais un petit sacrifice à Mercure, et etc., etc. C'était une approche de donnant-donnant. Tandis que là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un Israélite vient, il arrange, il met sa main, il arrange les choses, le sacrificateur fait brûler ça, et puis il y a une odeur qui monte. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? L'odeur est agréable à l'Éternel. Vous voyez à quel point nous sommes à l'opposé du donnant-donnant. Et vous voyez à quel point, dans le Nouveau Testament, quand une femme a pris un parfum qui représente des litres et des litres de Chanel numéro 5 en prix, et qui, un jour, a oint les pieds de Jésus, avec l'équivalent de presque 20 000 euros d'aujourd'hui. Voilà. Et l'odeur, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et ça a été tout. Après, l'odeur s'est dissipée. Et pourtant, Jésus a validé ce que cette femme avait fait. Ce que nous faisons ici, quand nous venons ici, je parle du culte collectif, même si j'insisterai plus tard sur le culte personnel, mais parce que peut-être c'est plus facile à saisir, eh bien, qu'est-ce que nous faisons ? Nous chantons, nous prions les paroles, prenons un peu de pain et de vin, et puis c'est tout. Pas grand-chose. Et ça monte. Ben oui. Donc vous voyez combien Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, met son peuple, les siens, en relation de pure grâce et de reconnaissance. Nous n'avons pas à attendre de contrepartie, parce que la contrepartie, nous l'avons déjà eue. Éphésiens chapitre 1, encore une fois, nous avons été bénis, chers amis, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà fait. Donc je ne vais pas offrir quelque chose à Dieu pour lui demander un supplément de grâce. De sa plénitude, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Donc ce qui plaît à Dieu, c'est que nous nous approchions pour lui. Pour lui. Parce qu'il est tellement beau, parce que nous avons vu la gloire de sa grâce, parce que cette gloire est descendue sur la tente de la rencontre, parce qu'il y a déjà eu cette rencontre. Il y a cette rencontre que nous faisons avec Dieu et nous sommes émerveillés de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Et nous le lui disons. Et le fait de le lui dire, eh bien, c'est un parfum agréable à l'Éternel. Si nous allons maintenant au chapitre 2, nous voyons, lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, il y versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens. Et on voit que cette offrande de grains était très souvent associée à d'autres offrandes animales. Il y avait l'Holocauste avec son offrande de gâteau. Très très souvent, il y avait ce lien entre les deux. Et donc, ce qui est intéressant dans l'offrande de gâteau, c'est que, en fait, quand on voit le grain qui pousse, ben c'est quoi ? C'est à la fois ce grain qui pousse, on ne sait pas comment, hein, ce grain qui tombe en terre, qui meurt et puis qui porte beaucoup de fruits. Mais c'est aussi le travail de l'agriculteur, comme je le disais, s'est quand même occupé de son champ. Et puis, le grain, c'est le pain quotidien. Alors, nous sommes habitués au beefsteak frites en France. Mais à l'époque, ce n'était pas le beefsteak frites. Il faut bien voir que la viande, c'était le repas exceptionnel. Qu'au quotidien, c'était le pain. On ne mangeait pas de la viande tous les jours. C'était un régime très, très végétarien un peu avant la lettre, mais intelligemment, c'est-à-dire pas tout le temps, et on va le voir dans le point d'après. Mais donc c'était mais au quotidien, on mangeait essentiellement des produits céréaliers et des produits qui venaient de la terre, et la viande, c'était pour les très grandes occasions. Et donc, ça nous parle aussi qu'on puisse offrir à Dieu quelque chose qui correspond à la nourriture du quotidien. Ça nous parle, en fait, de ce Dieu qui est présent dans notre quotidien. Et nous avons à louer Dieu pour le quotidien et dans le quotidien. Nous avons lu, il y a quelques années, avec Anne, un livre qui nous a beaucoup plu, qui s'appelle « Liturgie de la vie quotidienne », et où l'auteur prend les petits gestes de la vie de tous les jours, et voit comment on peut le transformer en une louange, en une relation avec Dieu, y compris de se laver les dents, de faire son lit, etc. Enfin, je vous invite à lire ce livre qui est très, très touchant dans ce point-là, et qui nous montre comment, finalement, cette louange vis-à-vis de Dieu, elle n'est pas réservée à des moments festifs ou à des événements très, très grandioses. Il y en avait au temps du peuple d'Israël, ils se retrouvaient à Jérusalem pour les trois grandes fêtes, etc. Mais aussi, c'était parsemé dans le quotidien. Et c'était sans doute beaucoup plus facile pour un Israélite d'offrir un holocauste sous la forme, enfin un cadeau à Dieu sous la forme de ce gâteau, hein, cette fleur de farine, ce grain ou ces gâteaux, beaucoup plus qu'un animal. C'était sans doute le mode le plus fréquent d'offrande à Dieu. Et cette offrande à Dieu... Et ce qui est très intéressant, c'est que je ne l'ai pas remis ici, mais le sacrificateur fait fumer. Qu'est-ce qu'il est dit ? C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Voilà, une odeur agréable à l'Éternel, comme pour les gros animaux. Et donc, voyez à quel point la Bible est toujours très désireuse de ne pas créer de distinction entre la vie quotidienne et puis la vie, je dirais, un petit peu religieuse. Voilà. Non, les deux sont imbriqués. Et c'est la même odeur agréable qui monte quand on offre un taureau ou quand on offre juste un petit gâteau. Voilà. Et donc ça nous montre que cette louange aussi vis-à-vis de Dieu, elle doit parsemer notre quotidien, dans notre quotidien et aussi pour le quotidien. Parce que là, vous voyez, on y rajoutait quoi ? On y rajoutait de l'huile et de l'encens. Et l'huile, on pourrait trouver des textes, les psaumes ou ailleurs, qui nous montrent que l'huile est souvent un symbole de joie. Et que l'encens est souvent aussi un symbole de reconnaissance. Ah ben, je suis content de ce que j'ai présentement, dit Paul. Ah bon, alors ça aussi, ce sera un sacrifice qui plairait à Dieu, un sacrifice spirituel, ben, peut-être. Et ce sera intéressant d'ailleurs de voir cela dans Philippiens 4, peut-être une autre fois. Et puis aussi, l'encens, je suis reconnaissant, je suis joyeux et je suis reconnaissant par rapport à ce que Dieu me donne au quotidien, entre autres le fait qu'il puisse me permettre de manger chaque jour. Et donc, ce que nous faisons quand nous avons l'habitude, au moins pour, je pense, la plupart d'entre nous, de prier avant le repas, eh bien, en fait, nous louons Dieu pour ce quotidien et dans le quotidien. C'est ce que nous faisons plusieurs fois par jour. Il y a une troisième catégorie, vous savez, dans mon long paragraphe des chapitres 1 à 3 du Lévitique, il y avait le sacrifice qui s'appelait l'Holocauste, donc brûlé entièrement, c'est pour ça que ça s'appelle l'Holocauste. Il y avait le sacrifice de grains, sous ses diverses formes, et puis il y avait le sacrifice, on appelait ça prospérité avant, sacrifice de paix, sacrifice de communion, etc. Et ça, nous le trouvons au chapitre 3, et puis nous en trouvons la contrepartie dans la loi, c'est-à-dire dans les règles pour les sacrificateurs au chapitre 7. Et je prends quelques versets de ce chapitre 7. « On présentera à titre de prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. » Et donc, il y avait trois parts. Quand un Israélite venait et disait, « Ben voilà, j'apporte cette bête comme sacrifice de communion. » Ah, ben c'est très bien. Du coup, on va faire trois parts. Il y a une part qui est pour Dieu, qui va brûler sur l'autel. Il y a une part qui va être donnée au sacrificateur, au prêtre. C'est l'épaule et la poitrine. Et puis, il y a le reste de la viande, ben, ça sera partagé. Et d'ailleurs, les Israélites étaient chaudement encouragés à partager ça largement avec son esclave, avec l'étranger, avec etc. Et donc, il y avait ces trois parts pour le prêtre, pour Dieu, pour le prêtre et pour celui qui offre. Et puis... Pourquoi c'était appelé un sacrifice de paix ou de communion ? Parce qu'on était là pour se réjouir de manger cette bonne viande en présence de Dieu. Et donc, ça nous encourage aussi à louer Dieu en partageant avec d'autres ces sujets de louange. mais aussi en partageant avec d'autres concrètement. J'ai arrêté la citation d'Hébreux 13, verset 15, parce que je ne veux pas spoiler éventuellement une autre présentation, mais le verset 16 nous dit « Offrez aussi vos biens, parce que Dieu prend plaisir à de tels sacrifices ». Et la conclusion qui est donnée, je pense, vaut pour le verset 15 comme pour le verset 16. Dieu prend plaisir à tous ces sacrifices-là. Et donc ce partage communautaire, c'est aussi une expression de louange par rapport à Dieu. L'Israélite était incité à le faire au travers de ce troisième sacrifice qui était le sacrifice de paix ou le sacrifice de communion. Et nous sommes invités à le faire nous-mêmes aussi en partageant avec d'autres nos sujets de louange. Et c'est ce que nous faisons le dimanche matin, mais faisons-le aussi peut-être dans le quotidien, en famille, etc. Et en partageant aussi concrètement avec d'autres. Alors pour terminer, le septième point, c'est Dieu mérite la meilleure part. Alors, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais je trouve que Astérix chez les Helvètes est sans doute un des sommets de Goscinny et de Uderzo. Et dans Astérix chez les Helvètes, ça commence par une orgie chez le gouverneur qui se trouve à Rennes. Et alors, à un moment, il y a quelqu'un, un Romain à l'orgie, qui dit « Faudrait tout de même pas oublier de laisser un petit quelque chose à Apollon ?» Oh, et puis le carovirus, le chef, il dit oh, « Il y en aura toujours assez !» Puis un autre « Ouais, c'est Dieu qui se prenne pour de grands patrons, va falloir que ça change !» Alors, que nous dit le livre des Lévitiques ? Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Dieu mérite la meilleure part. Dieu mérite la meilleure part. La meilleure part de l'époque, c'était la graisse. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout. Là aussi, il faut faire une petite transposition culturelle. Mais à une époque où il faut bien voir que se nourrir était quand même un véritable enjeu, la graisse s'était vue comme étant se serait rassasié de moelle et de graisse. Vous voyez, c'était vraiment l'expression de ce qui était le meilleur. Et Dieu dit, le meilleur, je le prends. Vous ne mangerez pas de graisse. La graisse était pour Dieu. La graisse était pour Dieu. La meilleure part vue de l'époque était pour Dieu. Et alors, la question se pose, elle se pose à moi. Est-ce que louer Dieu, c'est une priorité dans ma vie quotidienne? Ou est-ce que c'est, oh, il restera bien assez un peu de temps pour que je fasse un petit quelque chose à Dieu? Il y en aura toujours bien assez, comme dans Astérix. Et puis, après tout, hein, et puis, alors, vous savez, ça vient vite. Hein. À la fin de l'Ancien Testament, à Malachie, il y en avait qui avaient... Malachie s'énerve beaucoup parce qu'on offrait à Dieu des holocaustes, sauf que c'était des bêtes qui étaient boiteuses, etc., alors que lui voulait que... C'est... Dieu donnait des instructions. Il n'obligeait pas à offrir un holocauste, encore une fois. Mais si on l'offrait, il fallait qu'il soit selon ce que Dieu voulait. Et que là, il disait, on va offrir un holocauste, mais on prend les bêtes abîmées, celles malades, celles boiteuses, etc. Voilà. Et ça, quelque part, c'est quelque chose que nous faisons, malheureusement, parfois. Parce que nous ne mettons pas Dieu dans cette priorité. Dans cette priorité de cette rencontre qu'il veut avec nous, à laquelle il nous a appelés et qui est finalement le sujet pourquoi je suis sur cette terre. Je suis né pour te louer. Alors, petite récapitulation, je suis né pour te louer. Louer parce que Dieu m'a déjà accepté et mis en relation avec lui. Louer Dieu personnellement selon ce que j'ai vu de lui. Louer en me souvenant que je suis accepté devant lui grâce à Jésus-Christ et à son sacrifice pour le péché, pour mes péchés. Sous différentes formes et mesures, sans attendre de contrepartie, sans exiger et penser à des contreparties, pour le quotidien et dans le quotidien, en partageant avec d'autres mes sujets de reconnaissance et mes biens concrets. Et que peut-être pendant cette année scolaire, Dieu nous encourage à faire de cette louange une priorité dans notre vie quotidienne.